Tamani, voici nos informations en français.
Ravi de vous retrouver, monsieur Dame. Il est 18h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Voici les titres. ACMI revendique l'attaque contre le camp de la MINUSMA à Aguelhok qui a fait 10 morts et une vingtaine de blessés. Ces morts augmentent à plus de 160 le nombre de casques bleus tués au Mali depuis janvier 2013. Des enseignants entament une grève de 10 jours après l'échec des négociations avec le gouvernement. Les parents d'élèves inquiets de la situation demandent aux deux parties de penser à l'avenir des enfants. Les dangers liés à l'excision tels que la stérilité, la fistule ou encore la morbidité ont été enseignés aux femmes du cercle de Niafinke, une initiative de l'ONG Wiyei Kondé et son partenaire Génération Filles qui a duré 10 mois. À la présentation, Mariam Maïga. Le camp de la MINUSMA à Aguelhok, dans le cercle de Tessalit, région de Kidal, a été ce dimanche la cible d'une attaque par des présumés terroristes. Selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, le bilan est de 10 morts et plus d'une vingtaine de blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les explications avec Assetou Kanté.
Ce dimanche 20 janvier aux environs de 6h, des hommes armés ont surgi devant les checkpoints du camp de la MINUSMA à Aguelhok dans la région de Kidal. Selon des sources locales, les assaillants ont attaqué simultanément trois positions des casques bleus tchadiens peu avant la rupture du réseau téléphonique. Selon le témoignage d'un habitant, les assaillants criaient en disant « Allah Akbar ». Les crépitements des armes ont cessé juste après l'arrivée de deux hélicoptères. D'après la même source, ce renfort a permis de faire fuir ces hommes armés. Le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI a revendiqué l'attaque de la soirée. Le groupe affirme avoir mené cette attaque en réaction à la visite ce 20 janvier du premier ministre israélien au Tchad. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement cette attaque. Son porte-parole a précisé que 10 casques bleus tchadiens ont été tués et au moins 25 autres blessés. Antonio Guterres réaffirme que de tels actes n'entameront pas la détermination sans faille des Nations Unies à continuer à soutenir le peuple et le gouvernement du Mali dans leurs efforts pour bâtir la paix et la stabilité dans le pays. Rappelons que ces morts augmentent à plus de 160 le nombre de casques bleus tués au Mali depuis janvier 2013.
Des éléments des forces armées de sécurité basées à Toy dans le cercle de Massina, région de Ségou, ont été la cible d'une attaque ce matin. Le bilan est d'un militaire malien tué et un véhicule des FAMA emporté. Dans un communiqué, le ministère de la Défense et des Anciens Combattants confirme la mort d'un militaire malien dans cette attaque et affirme également avoir neutralisé 13 terroristes. Selon des sources locales, après leur forfait, les assaillants se seraient repliés à Ouena, une localité située dans la région de Mopti. L'attaque contre le camp d'Aguelhok était prévisible, pensent certains observateurs. Ainsi, pour faire face à cette situation, ils exhortent le gouvernement malien et la communauté internationale à étudier en profondeur la collaboration locale, mais aussi de changer de stratégie militaire dans la gestion des checkpoints. Boubacar Boukoum est analyste. Il est joint par Hamadoun Hamamaïga.
Il est important de comprendre aujourd'hui que jusqu'à preuve contraire, ni le Mali, ni la communauté internationale n'a compris réellement la dimension de la crise. Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est une crise totalement sécuritaire. Alors que s'il y a une analyse sociologique à la base qu'il faut mener et une vraie compréhension du phénomène aujourd'hui pour apporter une solution. Donc, la collaboration militaire ne suffit pas parce qu'en réalité, tout ce qui se passe, il y a des complicités en interne, il y a des complicités avec les différentes populations, il y a un malaise général, donc il y a un souci. C'est réel qu'il faut analyser et comprendre. Maintenant, si les Nations Unies pensent qu'il faut avoir des armes ou avoir des points de site à l'intérieur du pays ou avoir des checkpoints, que cela suffirait pour arrêter le djihadisme, je dis non, ce n'est pas le cas. Les checkpoints sont à des nombres tellement infimes et en termes de dispositifs sécuritaires, les checkpoints ne peuvent pas résister à une attaque. Donc, c'est toujours un système qui est mieux compris et connu des djihadistes. Donc, chaque fois qu'ils auront envie de faire quelque chose, voilà, ils pourront le faire très facilement.
Faites un tour sur la page Facebook que le compte Twitter du studio Tamani pour y réagir à toutes ces informations ou encore sur nos répondeurs téléphoniques à travers ces deux numéros, le 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Un mort, deux disparus, plusieurs hameaux incendiés. C'est le bilan d'une attaque survenue le samedi dernier dans le village de Nyondo, dans la commune de Ségué, cercle de Bankass. Les violences contre les civils ne se faiblissent pas dans cette partie du centre du pays. Depuis le 1er janvier, près d'une quarantaine de civils ont été tués dans le cercle. Le premier ministre avait annoncé le désarmement de toutes les milices du centre. Le point avec Omar Waigalo.
C'est aux environs de 18h ce samedi que les hommes lourdement armés venus à bord des motos ont fait irruption dans les villages. Ils ont ensuite tiré sur les populations civiles. Selon des témoignages, les assaillants ont brûlé toutes les habitations et des vivres qui se trouvent sur place avant de prendre la fuite. Les mêmes sources indiquent que tous les habitants ont fui pour se réfugier dans les villages voisins. Quelques heures après l'attaque, l'armée malienne s'est rendue sur les lieux de l'incident pour constater les dégâts. Cette partie de la région de Mopti est en proie à la violence intercommunautaire. Depuis le début de ce mois, 37 civils ont été tués à Kolongo dans les mêmes cercles. Interpellés par les députés de l'Assemblée nationale sur la situation sécuritaire au centre, le premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga avait annoncé le désarmement des milices du centre d'ici à la fin de ce mois. Selon les coordinateurs du désarmement, démobilisation, réinsertion de la région de Mopti, des registres d'enregistrement ont été envoyés à tous les chefs des milices pour enregistrer leurs éléments d'ici le 31 janvier 2019, faute de quoi des mesures radicales seront prises.
Les enseignants signataires du 15 octobre 2016 ont entamé aujourd'hui, 21 janvier, une deuxième série de grèves de 10 jours. Selon les responsables de ces syndicats, cet arrêt de travail intervient après l'échec des négociations avec le gouvernement ce dimanche. Une situation qui inquiète davantage les parents d'élèves et ceux-ci demandent aux deux parties de penser d'abord à l'avenir des enfants. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres... les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux à voir fondre leur faible pouvoir d'achat. Ce constat a été fait par Oxfam dans son dernier rapport. Selon le document sur le continent africain, où l'extrême pauvreté avait reculé ces dernières années, il repart à la hausse. Le Mali ne fait pas exception. Selon le professeur Abdoulaye Niang, économiste, cette situation s'explique par le fait qu'une partie de la croissance économique a été réinvestie ailleurs. Il est joint par Adama Hamadou Aïdara.
Et si vous prenez un pays comme le Mali, les nouveaux administrateurs qui se sont succédés au pouvoir à partir de 1992 ont effectivement adhéré à ce principe d'acquisition du titre de propriété des païens, des infidèles. Et la CI est un exemple patent pour ça. Les pauvres paysans qui étaient là-bas, qui aujourd'hui auraient dû être parmi les millionnaires à côté des milliardaires, ont été dépossédés de leurs terres. Les mines d'or, le permis pour exploiter l'or a été un marché très lucratif pour les hommes politiques. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de croissance économique réelle, mais il y a eu une partie de la croissance économique réelle qui a été blanchie. Donc ça se comprend qu'on continue à avoir des milliardaires qui finalement aussi se sont mis dans la drogue. Ce qu'il faut faire, il faut une société civile responsable pour être dans la richesse, pour être avec la vision qui va amener la santé, la paix et la sécurité.
Informer et sensibiliser les communautés de Niafinke à abandonner la pratique de la mutilation génitale féminine. C'est l'objectif que l'ONG Oye Kondé et son partenaire Génération Filles s'est fixé. Ses responsables viennent d'organiser une campagne de sensibilisation de 10 mois dans la localité. Selon eux, les populations ciblées ont été édifiées sur les dangers liés à la pratique de l'excision. Il s'agit entre autres de la stérilité, la fistule et la morbidité. Yacouba Maïga, directeur exécutif de l'ONG Oye Kondé, est au micro de Imirana Kilou Maïga.
En réalité, jusqu'à preuve du contraire, les gens continuent à faire cette pratique et personne ne veut en parler. Parce que d'aucuns pensent que c'est culturel, c'est traditionnel, raison pour laquelle rien ne viendra leur changer d'avis. Donc, comme je l'ai dit, on sait que pour faire abandonner des communautés à une pratique dont ils ont coutume de faire, ça va être extrêmement difficile. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut informer et donner la bonne information, les raisons pour lesquelles on demande à ce que les gens abandonnent la pratique. Les difficultés que les filles rencontrent dans les accouchements, certaines qui, à travers l'excision, devient stérile. Certains qui s'y combent même après l'excision, à travers l'hémorragie, souvent dans certaines localités, dans certaines brousses où il n'y a pas de centre de santé. Donc, raison pour laquelle on a sensibilisé les communautés pour leur donner l'information, pour leur donner les raisons de l'abandon de cette pratique.
Sidi Outamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Kadjolo où un jeune homme âgé d'une trentaine d'années est décédé la semaine dernière suite à un accident survenu dans l'usine d'agrainage. Selon une source, la cause de l'accident serait due à une panne technique au niveau de la porte d'entrée qui s'est écroulée sur lui. La fête de l'armée a été célébrée hier 20 janvier un peu partout au Mali de Kaya en Songo en passant par Bourem. Les festivités de ce 58e anniversaire ont été marquées par l'organisation de matchs de football entre les militaires et la jeunesse. Les jeunes dans Songo ont battu l'équipe de l'armée malienne par 2-0. À Bourem, 1-0, c'est le score du match de football entre les Fama et les jeunes de la localité. À Kayi, la première édition de la Coupe Amadou Aya Sanogo a opposé l'équipe D, Diabougou, à celle de Hasso. Le score final est de 2-1 en faveur de Diabougou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'est à la présentation Mariam Maïga, Mamadi Keïta est à la technique. Mais tout à l'heure, vous aurez le grand dialogue juste après la question A du jour. Aliou Sidibé, bonsoir.
Bonsoir. Réforme du système de santé au Mali, que faut-il changer? Tel est le thème du grand dialogue de ce soir. Le ministre de la Santé multiplie des visites ces derniers jours dans les centres de santé. Une réforme du système de santé serait en vue selon certaines sources. Pourquoi faut-il réformer le secteur de la santé au Mali? Nos invités sont Adama Baridjan Diakité, il est conseiller technique au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Mohamed Cheikh Aïdara est représentant des différents ordres professionnels de la santé au Mali. Abdul Wahab Diakité représentera l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Le débat, c'est en langue nationale bamanankan.
A tout à l'heure, Aliou Sidibé. 860 logements sociaux de la commune rurale de Kambila, cercle de Kati, ont été remis ce dimanche 20 janvier aux forces armées maliennes par le président de la République.